La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela ?» Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jazer. Ils allèrent en Galad et dans le pays de Tashtim Odji. Ils allèrent à Danjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toutes les villes des Événiens et des Cananiens. Ils terminèrent par le midi de Juda à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 5 500 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple et dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un, je t'en frapperai. » Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays ? Maintenant choisis, vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, au tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravna, le Jébusien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait ? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Ce jour-là, Gad vint auprès de David et lui dit, « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'air d'Aravna, le Jébusien. » David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Ravna regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Et Ravna sortit et se prosterna devant le roi et le visage contre terre. Ravna dit, « Pourquoi, mon seigneur le roi, vient-il vers son serviteur ?» Et David répondit, « Pour acheter de toi l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. » Ravna dit à David, « Que mon seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre des sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chars avec l'attelage serviront de bois. » Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, « Que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. » Mais le roi dit à Aravna, « Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Nous arrivons à la fin de la vie de David, de la fin de notre parcours, de sa vie. Ce serait certainement l'avant-dernier message. Pourquoi s'être intéressé à cet homme? Eh bien, comme nous avons pu le dire, David, le roi David, il est de loin le personnage qui occupe la plus grande place de l'Ancien Testament. En tout cas, en quantité de chapitres qui lui sont dédiés. Le roi David dépasse largement même Moïse et Abraham, ces autres personnages de l'Ancien Testament que nous connaissons. Mais si on compte les livres de 1 Samuel, 1 Chroniques qui parlent de David, à cela s'ajoute le livre des Psaumes, majoritairement écrit par David, eh bien David occupe une très grande place dans l'Ancien Testament, sans parler des livres comme Ruth ou même la suite des rois qui on traite finalement à David pour soit l'introduire ou soit parler de sa descendance. Donc vraiment, le roi David domine de loin l'Ancien Testament. Alors c'est naturel qu'on a voulu s'intéresser à lui. Mais encore plus, ce roi David nous sert d'exemple, d'image du vrai roi qui va venir. Et puis en chapitre 23, je veux vous montrer ces versets pour introduire notre réflexion ce matin. En chapitre 23, nous trouvons les dernières paroles de David, en tout cas les dernières paroles officielles de David. Il va encore dire des choses dans le début des livres des rois. Mais il prononce en quelque sorte un bilan de sa vie, de son règne. Et nous trouvons, je vous lis juste ces versets 3 et 4. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit, « Celui qui règne parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est paré à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans nuages, ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. » Et il dit ça, « N'en est-il pas ainsi de ma maison ?» David était le plus grand roi qu'Israël a connu, le meilleur règne qu'ils ont connu. Et il donne cette belle illustration, belle image. Celui qui règne dans la crainte de Dieu avec justice est paré à la lumière du matin quand le soleil brille. N'y a-t-il pas peu de choses si belles, si magnifiques que le soleil qui brille le matin sans nuages? J'ai des souvenirs dans les Pyrénées ou bien en Californie où j'ai grandi, d'être réveillé avec un soleil, un ciel sans nuages, un soleil qui brille, que ce soit en hiver avec la neige, c'est magnifique, que ce soit l'été à la montagne. J'ai vu peu de choses si belles. Autant la chose la plus désagréable, c'est de passer toute la nuit dans un tente qui fuit avec la pluie, le brouillard, le froid, l'humidité. Autant la chose la plus agréable, c'est de se réveiller après une telle nuit, le soleil qui brille dans un ciel sans nuages. Et ici, la Bible dit qu'un roi, un chef, un dirigeant qui dirige son peuple dans la crainte de Dieu, dans la justice, et comme ce soleil, comme cette matinée-là. Et la vie de David nous donne un exemple d'un roi qui a régné avec justice et qui a permis l'épanouissement du peuple. Au fond, nous savons que la solution pour nos vies n'est pas l'absence de toute autorité, de tout roi, mais la solution n'est pas non plus des mauvaises autorités. Et l'histoire de France a connu un peu les deux, les mauvaises autorités et l'absence d'autorité. La France a connu des rois absolus, a connu aussi, la France a essayé de se débarrasser des autorités. La France devrait essayer le vrai roi soleil que nous découvrons dans la vie de David, notamment, et son fils. Alors, c'est ce que nous découvrons dans la vie de David, c'est qu'il sert de prototype, on va dire, pour nous, pour Israël, un prototype du Messie, du vrai roi, du vrai Seigneur que nous attendons tous, que Israël devait attendre, que la France attend encore, que nos cœurs attendent. Et donc 2 Samuel termine avec un dernier épisode dans la vie de David, ces derniers chapitres, comme nous avons dit la semaine dernière, sont un peu des appendices, des histoires ajoutées, ne sont pas forcément dans l'ordre chronologique de la vie de David, mais on les met à la fin pour résumer des grands moments dans la vie de David et pour nous aider à comprendre son règne. Alors, à travers cette histoire, nous allons encore ce matin découvrir le plus grand roi qu'Israël, que le monde ait jamais connu, le vrai roi soleil. Et pour cela, nous allons voir d'abord sa force, ensuite sa grandeur et enfin son palais. Parlons tout d'abord de la force de ce roi dans les premiers versets 1 à 9. la force de ce roi. C'est la question derrière cette histoire du dénombrement que nous avons lue. Quelle est la vraie force? D'où vient la vraie force d'un roi, d'un gouvernement? Bien sûr, c'est toujours une préoccupation importante pour les rois, être fort, vouloir être fort. Et ici, David nous sera donné comme un contre-exemple, un mauvais exemple, même si souvent dans sa vie, il a été un bon exemple de la force, la vraie force. Comme on a vu tout au long de la vie de David, il avait de grands défauts, de grands échecs. Et la Bible ne minimise pas ses échecs. Mais justement, ils nous sont donnés pour servir d'un contre-exemple, un antitype. David, dans la plupart des cas, a servi de prototype, mais aussi parfois un antitype du bon roi. Souvent, parfois, pour apprécier le sucré, il faut goûter l'amer. Pour apprécier quelque chose de brillant, il faut voir quelque chose de sombre. Et donc, les moments sombres dans la vie de David vont nous aider à mieux comprendre l'éclat, la brillance du futur roi, le vrai roi soleil qui va venir. Mais en tout cas, ici, dans cette histoire, David entreprend un dénombrement, et surtout un dénombrement des soldats de son armée, certainement. On compte les hommes, et il s'agit des hommes portant, pouvant se battre. Donc il veut connaître la taille de son armée, la taille de ses forces. En soi, nous savons qu'un dénombrement dans la Bible n'est pas un péché. Même dans la vie, hein, si quelqu'un me demande combien d'enfants as-tu, et je dis moi je compte jamais, c'est pas forcément bien. Si les services de la mairie nous demandent combien de places assises dans le nouveau local, et on dit nous on compte jamais, désolé, ça c'est pas bon non plus. Si l'agent recenseur de l'INSEE frappe chez vous, vous n'êtes pas obligé de lui fermer la porte en disant non, ça c'est un grand péché selon la Bible, ce serait une mauvaise application de cette histoire. Il y avait des fois dans la loi de Moïse où il fallait faire un dénombrement du peuple. Aussi même dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, on compte parfois le nombre de chrétiens, on compte le nombre de nouveaux convertis qui s'ajoutent à l'Église. Et même dans le livre des Actes, c'est encourageant, c'est fort, on compte par milliers ces nouveaux chrétiens. Donc, il ne faut pas être comme ces personnes qui veulent être plus spirituelles que le Saint-Esprit, qui a pourtant lui compté des personnes. Mais en l'occurrence, on voit le travers, le danger ici. En l'occurrence, ce dénombrement est parti d'un mauvais désir chez David. Un désir voir la taille de son armée, de s'y confier en quelque sorte. Même Joab, l'humaniste pragmatique, comme nous l'avons vu à travers l'histoire de David, même Joab sent qu'il y a un problème dans cette démarche, une démarche d'autosuffisance. Et donc il dit au roi que l'Éternel te rende 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais on ne va pas tenter Dieu ou forcer les mains de Dieu dans cette démarche. Mais David insiste et donc il envoie Joab faire un grand tour du pays pour compter les hommes de l'armée. Et donc finalement dans son cœur, et David est très vite conscient de la chose même à la fin du dénombrement, mais dans son cœur, David, au lieu de compter sur Dieu, il compte sur les chiffres, il compte sur le nombre. Beaucoup d'ailleurs pensent que David a écrit le psaume 30, un peu dans suite à ces circonstances. Ça évoque pas mal de choses, mais dans le psaume 30, et il évoque la colère de Dieu qui dure un instant, mais sa grâce toute la vie, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Et verset 7, c'est intéressant, il dit « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, tu caches à ta face, je fus troublé. » Donc, il avoue ce qui traversait un peu sa tête, sa pensée. « Je disais dans ma sécurité, avec mon grande armée, avec 1 300 000 hommes, je disais dans ma sécurité, je ne chancerai jamais. » Alors que nous connaissons David comme le psaume que le frère a lu ce matin, que Nathan a lu ce matin. David, normalement, il avait appris à dire « Puisque Dieu est ma haute retraite, là, je ne chancerai jamais. » Mais ici, c'est comme s'il disait dans sa sécurité, dans sa confiance, et c'est ça qui le rassurait. Donc David, à un moment de faiblesse, il lance ce dénombrement pour compter sur ses forces à lui, Mais en faisant cela, nous connaissons David. Il était allé à l'encontre de tout ce qu'il savait lui-même. Il avait dit en psaume 33, « Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. » Ça, c'est David qui l'a écrit dans le psaume 33. Il le savait, et ici, il va à l'encontre de tout ce qu'il sait, ce qui explique peut-être la sévérité du châtiment. Il le savait, il devait être un exemple de la vraie force, la force qui venait de l'Éternel, et pas d'une grande armée. Son meilleur ami Jonathan aussi, ils étaient tellement similaires. Son meilleur ami Jonathan avait dit un jour que rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Et David le croyait aussi et le vivait. D'ailleurs, quand il était affronté Goliath, que nous connaissons bien l'histoire, quand c'était David contre Goliath, il savait que la vraie force ne venait pas d'une grande armée. Il était seul, il n'avait pas les 1 300 000 hommes avec lui, et pourtant il a remporté la victoire. Donc il le savait, mais à ce moment il a oublié, il a insisté à vouloir puiser sa force dans une autre source que l'Éternel, et c'était ça qui était grave. Et si vous regardez toute l'histoire de David, le règne de David, les livres de Samuel, ils veulent constamment nous montrer que la vraie force vient de Dieu et non pas les machinations humaines. Et quand les hommes essaient par leur propre force, en général, ça finit mal. Alors nous avons étudié des personnes comme Amnon, comme Absalom, comme Achitophel, comme Joab. Ils ont souvent eu recours à la force ambitieuse, la force personnelle, la force charnelle pour arriver à leur fin. Mais en faisant cela, ils ont détruit leur vie, ils ont détruit leur entourage. Donc le vrai roi soleil, c'est celui qui s'appuie sur la force qui vient de Dieu. D'ailleurs, la loi de Moïse avait dit clairement au roi de ne pas s'amasser trois choses, de ne pas s'amasser des chevaux, de l'or et des femmes. C'était clairement indiqué au roi, au chef, de ne pas s'amasser ces choses pour pouvoir compter sur Dieu. Cela m'a toujours fasciné, hein, les chevaux, l'or et les femmes, puisque c'est encore aujourd'hui la méthode préférée des hommes pour amasser la force. À l'époque, il faut savoir que les chevaux représentaient la force militaire, politique, donc c'était le pouvoir. Quand on avait une grande cavalerie, beaucoup de chevaux, des chevaux, on était fort. Et puis quand on avait beaucoup d'argent, et puis quand on avait beaucoup de femmes, voilà, c'était une manière de montrer sa force. Et Dieu avait interdit au roi d'Israël de procéder ainsi pour rappeler constamment que la vraie force, la seule force qui compte, c'est celle qui vient de Dieu. Mais encore aujourd'hui, et c'est ça qui n'a rien changé, l'argent, le pouvoir et le sexe, c'est on s'amasse ces choses pour penser être fort. Que cela soit Louis XIV ou que ce soit Strauss-Kahn, c'est exactement la même démarche. C'est pour pouvoir dire « je ne chancerai jamais dans ma sécurité parce que j'ai tout ça, je ne chancerai jamais ». Il suffit de regarder les vies, ça chancelle quand on s'appuie sur ces choses. Après, c'est la chute grave. La France a vu ce que ça donnait après que des autorités ont essayé ces manières. Regardez les vies détruites, regardez les dégâts, regardez les sociétés mises en danger par ceux qui cherchent la force ainsi. Mais le vrai roi soleil, il a toute une autre démarche, comme David a souvent eu dans sa vie. Même si ici c'est un contre-exemple, David a souvent cherché sa force en l'Éternel. Et puis quand on lit la vie de Jésus-Christ, qui est le fils de David, il s'est présenté comme roi, il s'est présenté comme roi d'Israël, il s'est présenté comme roi de notre vie. Mais comment était-il en tant que roi? Si Jésus avait fait le dénombrement de son armée, combien? Quel chiffre? 12? Moins un, hein, était un traître, un espion, donc on va dire 11. Et au moment de sa victoire, combien? Zéro. Tous l'ont abandonné. Et ces douze n'étaient pas des guerriers, des hommes portant l'épée, c'était des pêcheurs, c'était ces apôtres qu'il allait envoyer. Mais c'est ainsi que Jésus va conquérir le monde avec cela. Donc sa force venait pas de l'argent, du pouvoir, du sexe dans la vie de Jésus. Sa force venait de l'Éternel lui-même, étant le Tout-Puissant. À la fin de sa vie, combien on a trouvé dans son compte bancaire en Suisse ? À Jésus. Donc vous voyez que le vrai roi soleil, le roi qui mérite notre fidélité, ce serait un roi comme David, qui n'a pas eu finalement recours à la force des hommes. Ici, il a fait un instant de faiblesse, mais rapidement, il s'est rendu compte de son erreur et il est revenu. Et donc nous pouvons voir maintenant sa grandeur, parce que dans sa réaction, juste après qu'il lance le dénouement, nous voyons à quel point David était un grand roi. Dans les versets suivants, versets 10 à 17, il sentit battre son cœur, verset 10, et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » La grandeur de David, c'était dans son humilité, cette capacité de reconnaître son péché, sa culpabilité, de l'avouer, et cette manière d'accepter toute responsabilité. Et immédiatement, sans excuse, sans minimiser, il l'avoue et il porte la responsabilité. Et là, on voit que David, il reconnaît qu'il est soumis à une autorité plus grande que lui. Souvent les rois, c'est leur problème, ils pensent être, ils ne reconnaissent pas qu'il y a une autorité au-dessus. Et c'est vrai pour tous, pour toute personne en autorité, que ce soit un père, que ce soit un président, on est prêt à exercer l'autorité dans la mesure qu'on se sait sous l'autorité d'un autre, sous l'autorité suprême de Dieu notamment. Mais si on ne reconnaît pas Dieu au-dessus, c'est une manière de se prendre pour Dieu. Comme quantité de personnes en pouvoir l'ont fait, que ce soit des patrons à bas niveau, que ce soit des présidents ou des rois. Si on ne reconnaît pas Dieu au-dessus, c'est une manière de se prendre pour Dieu. C'est vrai pour un roi, c'est vrai pour un gouvernement. Mais David, il reconnaît qu'il n'est pas le roi absolu, que Dieu est au-dessus de lui, et il doit se soumettre à lui, il doit rendre des comptes, et il accepte de porter la responsabilité de sa faute quand cela va à l'encontre de Dieu. Et en verset 17, c'est beau encore, on voit encore la grandeur de David, il voit l'ange qui est prêt à frapper parmi le peuple, il dit à l'Éternel, « Voici, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable, mais ces brebis, qu'ont-elles fait, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Les chefs et les grands de nos jours, vous ne les entendez jamais dire ça, « C'est moi qui suis coupable, pas eux. » Souvent, même quand ils sont coupables, ils disent c'est la blâme, c'est chez eux, c'est pas moi. Et on essaie toujours de mettre le blâme chez d'autres. Mais David accepte complètement le blâme. Et en plus, il se voit comme un berger, en parlant des brebis. Et il demande plutôt à ce que ce soit le berger qui encaisse le coup, c'est le berger qui soit frappé, et pas les brebis. Vous savez, il y a deux sortes de rois dans ce monde, deux sortes de chefs dans ce monde. Il y a ceux qui nourrissent le peuple, qui les voient comme des brebis à nourrir, ou il y a ceux qui se nourrissent du peuple, qui les voient comme des brebis à égorger, et à manger. Il y a ceux qui disent, s'ils n'ont pas du pain, qu'ils mangent du brioche, comme moi, puisque le peuple doit me fournir du brioche. Et il y a ceux qui disent, moi je donne ma vie pour mes brebis. Pour les nourrir. Et Jésus était ce genre de roi qui se donnait pour le peuple pour les nourrir, alors que quantité d'autres rois profitent du peuple pour se nourrir soi. Et David, il était ce roi qui protège le peuple, qui se voit comme un berger pour le peuple et qui prend soin d'eux et qui porte la responsabilité. Bien sûr, Jésus était allé encore plus. Il a fait encore plus fort. Lui qui n'était même pas coupable, il a dit, il a accepté d'être traité comme le coupable. Et il a dit, que ta main soit sur moi. C'est ce qu'il a dit à son père. Que ta main, que la punition soit sur moi, au lieu d'être sur mon peuple. Voilà encore en quoi nous voyons la grandeur du vrai roi soleil. C'est lui qui encaisse le coup, c'est lui qui porte la responsabilité pour sauver, pour protéger, pour nourrir le peuple comme a fait David. Et enfin, nous allons voir dans les versets suivants son palais, le palais du vrai roi soleil. Et c'est là où j'aimerais vous dire que c'est la véritable importance de cette histoire, une des raisons qu'on la met ici, notamment en appendice de la vie de David, c'est que c'est cette histoire en particulier qui explique les origines de l'emplacement du temple. Le fameux temple du Salomon trouve ses origines ici. Et cette histoire prépare le terrain, littéralement et symboliquement, pour le temple de Salomon. Cette histoire prépare le terrain pour le temple et pour le sens des sacrifices qui vont s'y trouver. Parce que à ce moment, pour arrêter la plaie, pour arrêter la colère de Dieu, Gad, le prophète, indique ce qu'il faut faire. Et selon ce qu'il indique, il faut acheter cette aire, ce terrain, qui se trouve sur les limites de la ville de Jérusalem, puisque c'est juste aux alentours de Jérusalem. Et il dit à David, il faut acheter cette aire et y faire un autel et offrir un sacrifice. Et l'aire, cette aire que David achète ici, aux alentours de Jérusalem, sera le futur emplacement du temple. C'est ce que nous apprenons en 2 Chroniques, chapitre 3, verset 1, qui raconte un peu la même histoire. Alors, le nom de Aravna, c'est soit Aravna dans les 1 Samuel ou Ornan dans 2 Chroniques, mais c'est la même personne. Et 2 Chroniques 3, 1 dit « Samuel commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'aire d'Ornan, le Jébusien. » Donc, Salomon bâtit le temple là, sur le lieu que David avait acheté. Et c'est là, c'est fort. Parce qu'une des grandes qualités du roi David, qu'on peut retenir de toute sa vie, c'est que dans son cœur et dans sa démarche, on l'a toujours vu, il a mis la priorité à construire une maison pour Dieu, un temple pour Dieu, au lieu de construire un palais pour lui. Alors c'est vrai que c'est son fils qui va construire le temple, mais si vous regardez bien, notamment dans 2 Samuel et puis aussi dans les chroniques, si vous regardez bien, en fait c'est David qui va tout faire. C'est David qui l'a payé, il a acheté le lieu, le terrain, il a acheté les matériaux. C'est lui qui avait donné des plans à Salomon pour savoir que construire. C'est David qui l'avait conçu. Donc, c'est Salomon qui va construire le temple, mais finalement, c'est David qui l'a tout payé, qui l'a tout préparé pour son fils Salomon. Et en cela, on peut dire que l'héritage que David a laissé à la suite, à son peuple, à son fils, l'héritage que David a laissé, l'œuvre de sa vie, ce n'était pas un palais à Versailles, c'était un temple à Jérusalem. Et David va payer le prix fort pour avoir ce temple, pour avoir le terrain, l'autel de sacrifice. Et nous voyons comment sa démarche. Non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc David paye le prix fort pour avoir cette aire qui sera le futur emplacement du temple, et il bâtit cet autel, ce sacrifice où on va offrir des holocaustes, tout comme on va faire dans le temple pour rappeler donc Dieu est prêt à faire miséricorde. Or, dans notre premier cours d'hébreu, j'ai appris que le mot temple et le mot palais, c'est le même mot en hébreu, et dans les psaumes on joue sur les deux sens. Le palais de Dieu, le temple de Dieu, c'est le même mot en hébreu. Et donc, quelque part, ce qu'on veut dire ici, c'est que David construit le vrai palais, le palais de Dieu, l'endroit où Dieu va pouvoir rencontrer les hommes et les accueillir dans sa présence. Donc, le vrai roi soleil, à partir de cette histoire, nous savons que le vrai roi soleil, c'est celui qui paye le prix fort, qui offre le sacrifice, qui arrête la colère de Dieu sur le mont indiqué par Dieu. Et comme les chroniques nous l'avaient indiqué, Cette aire se trouve sur le mont Morija. Est-ce que vous connaissez où se trouve le mont Morija? Vous avez déjà entendu parler de ce mont? Eh bien, le mont Morija, c'est ce mont à Jérusalem. Et c'est cet endroit même que le couteau d'Abraham, qui était prêt à égorger son fils Isaac, c'est là où Dieu avait dit d'aller sur le mont Morija, c'est cet endroit même que le couteau était sur le point de frapper son fils. Et ici, l'épée de l'ange est sur le point de frapper Jérusalem. Mais dans les deux cas, avec Abraham sur le mont Morija, avec David sur le mont Morija, la mort est écartée à la dernière minute par un sacrifice qui est offert sur le mont Morija. Alors vous voyez, c'est magnifique. Le livre de Samuel termine avec une image du futur roi qui se donne en sacrifice pour le peuple. Un autre roi allait monter sur le mont Morija, à côté du temple, à côté de Jérusalem, c'est Jésus-Christ. Et si Isaac a pu être épargné, si le peuple de Jérusalem a pu être épargné, c'est parce qu'un jour cette épée allait trouver sa victime expiatoire en Jésus-Christ, sur le mont Morija, juste à côté du temple. Et donc nous avons, comme j'ai dit, une image du futur roi qui se donne en sacrifice pour sauver le peuple. Et c'est là que Jésus devient notre temple, notre palais, le lieu que nous pouvons rencontrer Dieu. Et ça, nul autre roi, nul autre chef ne peut faire cela. Il y a eu des bons rois, mais même cela, même David ne peut pas lui-même arrêter la colère de Dieu contre nous. Il fallait un sacrifice, il fallait que le sang coule. Et tous ces sacrifices dans le temple, à l'époque de David, à l'époque de Salomon, n'étaient que des images du sacrifice que Jésus allait être pour nous introduire dans la présence de Dieu, pour nous permettre, nous, de nous approcher du trône de la grâce, pas un trône de colère, mais un trône de grâce. Donc, cette aire du temple, finalement, ce serait... David n'a pas bâti un Versailles à son honneur, mais il a payé un prix fort pour un sacrifice, pour un futur temple qui allait imager le vrai temple, le vrai palais, qui est pour nous Jésus-Christ, sa personne. Et c'est à cause de tout ça que nous reconnaissons, nous, le vrai roi, le roi qui mérite d'être roi de notre vie, celui qui manifeste la vraie force, pas la force humaine, la force charnelle, mais une force venant de Dieu, celui qui manifeste la vraie grandeur, qui s'abaisse dans l'humilité, qui protège le peuple et qui encaisse lui-même le coup, et puis celui qui construit le palais, le temple, où on offre le sacrifice ultime. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Après Israël, ils n'ont jamais eu un roi aussi grand que David. Les futurs rois vont toujours être de plus en plus mauvais, de plus en plus pas comme fils David. Mais chaque roi qui succède donne envie à Israël, enfin, de rencontrer le vrai roi, le roi qui est encore plus grand que David. Et un jour, il est venu, ce roi, le vrai roi soleil. C'était Jésus-Christ. Mais encore, beaucoup de Juifs ne l'ont pas reconnu parce qu'ils s'attendaient à voir un roi selon les critères humains, avec beaucoup d'argent, avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup de femmes. Mais Jésus n'était pas comme ce roi. Alors ils ne l'ont pas reconnu. Et vous, est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que vous l'avez pris comme roi de votre vie? Est-ce que vous acceptez son règne? D'avoir un tel roi qui règne sur nos vies, c'est comme le soleil qui se lève le matin, un ciel sans nuages. Et un des derniers versets de la Bible le dit ainsi, nous rappelle, faisant certainement référence à ces versets que nous avons vus ce matin, où Jésus termine sa parole, sa révélation ainsi, pour nous inviter encore à se confier en lui. Jésus dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et avoir un tel roi, ça doit nous donner envie de venir à lui, de le suivre, de l'accepter. Et l'accepter comme roi, c'est comme se réveiller après une nuit, dans le froid, dans le brouillard, dans les ténèbres, dans la misère, et découvrir un soleil magnifique, brillant, qui jaillit dans nos cœurs. Voilà ce que c'est de rencontrer Jésus-Christ et tout ce qu'il en fait. On a vu cette beauté, on a vu cette joie d'un soleil qui se lève dans nos cœurs. Voilà ce que Jésus-Christ est pour nous. J'espère qu'il est pour vous. Prions pour terminer.